Bonjour Bruno.
Bonjour Marin, mes meilleurs voeux Marin pour cette année 2025 et mes meilleurs voeux à tous les auditeurs de Radio Escapade. Alors l'édition en fin d'année 2024, c'était en octobre, de cette histoire du dessin politique et d'actualité de la caricature à Charlie Hebdo est un événement d'autant plus nécessaire avec les commémorations des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Son auteur Yves Frémion, longtemps rédacteur à Flûte Glaciale, rédacteur en chef de la revue Papier Nickelé, essayiste, auteur de différentes biographies comme celle de Reiser ou de Goussens, pour ne citer qu'eux. Et il débarrasse ainsi avec cette histoire du dessin politique, du discours méprisant vis-à-vis de la bande dessinée de leurs auteurs. Il rapporte ainsi toute la précision et la puissance de cette histoire du dessin politique et d'actualité. Nous serons avec Yves Frémion vers 14h15 pour qu'il nous détaille son livre, cette histoire de la caricature, cette histoire du dessin politique de la caricature à Charlie Hebdo, donc 1830-2015. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Alors, vraiment, je renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche de lectures, de rencontres, d'émotions avec le dessin, notamment. Alors, la bande-son, eh bien, la musique de cette émission, c'est Yves Frémion qui l'a choisie. On commencera par les Janis Joplin et puis par Los Cocodos. Et on finira avec Bourvil et Jacqueline Maillan. Alors, le mois de janvier, c'est le mois du Festival d'Angoulême. Donc, la prochaine édition aura lieu à la toute fin du mois. Et donc, il y a toujours le site du FIBD, donc pour Festival International de la Bande Dessinée, apporte toujours un ensemble d'informations. La billetterie, par exemple, est ouverte. Et il y a surtout cette présentation des prix et des palmarès. Donc là, pour l'instant, on a tous les nominés. Et il y a dernièrement été ajoutée celle de la bande dessinée alternative ou fanzine ou revue. Et le nombre est important et il y a vraiment des choses à découvrir. On aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais encadrer cette histoire du dessin politique et d'actualité d'Yves Frémion avec trois projets narratifs qui ont des liens importants avec pas la caricature ni le dessin d'actualité, mais avec cette force et liberté du dessin que les auteurs, les dessinateurs de dessins politiques ont beaucoup travaillé. Je vais commencer avec « Les Julies » de Nilsson. Nilsson, c'est cet auteur qui a publié il y a quelques temps, on l'avait écouté sur cette antenne pour ce livre, « Les cabanes ». Et « Les cabanes », c'était le recueil d'un ensemble de dessins compulsifs que Nilsson réalisait chaque matin. Et il démarrait avec la contrainte que les traits ne se croisent pas. Les Julies, c'est un projet différent, bien sûr. On va retrouver des préoccupations qui apparaissaient dans les cabanes, dans la partie dessinée des cabanes. Mais l'histoire de ce terme qui s'écrit G-U-L-Y-S est assez étonnante et le traitement qu'en fait Nilsson l'est tout autant. Alors les Julies, eh bien, elles chantent sans ouvrir la bouche, des mélodies voluptueuses. Elles traversent les pages et les paysages, elles ne se réduisent qu'à la grandeur de la nature. Elles font un passage éclair parmi nous, pas encore là en juin, déjà parties en août. Ce sont les Julies. Des êtres minuscules, sortes de génies qui, aux premières lueurs du premier jour de juillet, sortent de leur coquille sous l'eau et rejoignent la surface du monde pour s'immiscer dans nos rêves. Alors, c'est un résumé qui est tout à fait inhabituel, comme le livre. Et le projet est vraiment de traiter ces êtres imaginaires, cette capacité que nous avons à créer des personnages qui vont peupler pas seulement nos rêves, mais notre esprit, notre imaginaire, et qui peuvent être d'une grande fécondité. L'histoire vient un peu de l'observation, en tout cas, on le sent, on imagine facilement un récit autobiographique avec cette façon de présenter comment ces personnages imaginaires sont arrivés, et c'est en discutant, dans les discussions entre un père et son fils, que va se déployer cette présentation des Julies. Alors le récit, pour être tout à fait complet, est construit sur plusieurs niveaux. On a les séquences où on va avoir le dessin des Julies, donc ces personnages qui sont vraiment de très petite taille dans le paysage, et qui vont donc cheminer en groupe. Il va y avoir à un moment toute une séquence avec une Julie qui va s'écarter du groupe, qui va revendiquer une envie de solitude. L'autre partie, ça va être cette relation père-fils qui arrive assez régulièrement et qui va constituer des séquences avec un cadrage souvent un peu plus réduit, mais on a aussi des séquences de balades, de découvertes du paysage et d'évocation de ces Julies sur une forme de dessin équivalente à cette présentation de ces personnages imaginaires. Et puis il y a une troisième dimension qui va être celle de la discussion. On imagine un psychologue ou un psychiatre avec l'enfant, et l'enfant va évoquer, réagir, parler des Julies, va répondre au psychologue, évoquer sa dimension propre. Le psychologue essaie de montrer le lien qu'il peut y avoir entre la situation des Julies et la sienne. Et donc c'est fait avec beaucoup de finesse. Et là, le découpage de ces séquences va être sur un plus petit format. L'astuce de Nilsson, c'est de ne pas en rester là, c'est de mélanger aussi les différentes approches de cadrage. On va avoir des présentations des Julies sur ces petites séquences de 6 cases qui sont un format plus réduit. On va avoir le père et son fils dans des plus grandes images, mais le psychologue va rester, lui, sur un format beaucoup plus réduit. Ce qui va faire toute la force de cette écriture, c'est que justement ces personnages imaginaires vont trouver toute leur ampleur et toute leur valeur dans le développement de notre personnalité. L'enfant, qui est un enfant précoce, qui a des lectures de grande qualité par rapport à son âge, qui surprend un peu son père. Et en fait, les Julies, les discussions qu'ils peuvent avoir, c'est aussi pour remettre toujours son propre imaginaire dans son développement personnel, et que cette précocité ne l'écarte pas de cet onirisme. Et puis, il y a le dessin de Nixo, qui est déjà remarquable dans Cabane, qui est donc un auteur qui a un plaisir à dessiner la nature, qui est tout à fait exceptionnel. Et on va retrouver cette même envie, ce même plaisir à installer les Julies dans le paysage, avec la façon de traiter les canopées, les feuillages, les grands espaces en herbe, le tronc des arbres, les matières et la roche, la pierre. Et à chaque fois, l'image prend une intensité simplement par ce traitement graphique en noir et blanc qui est hérité de son livre Les Cabanes et qui va parfaitement s'adapter à ces petits personnages, les Julies. Il y a dans le traitement des personnages, donc le principe des Julies, c'est en étant de si petite taille, c'est donner tout de suite une grande ampleur au paysage, et ça va redonner de l'intensité à cette lecture. Il y a le principe aussi de changer les univers. On va avoir toute une séquence qui se passe dans les fonds marins et avec la même réussite et simplement avec du noir et blanc. On sent qu'on est dans l'eau et là aussi c'est une très grande réussite. Et puis il y a ce travail un peu plus âpre qui est celui des personnages, qui est une façon de les griffer un peu avec un trait tendu, direct, la façon dont il va représenter cet enfant, être capable de dessiner d'aussi petite taille, et à chaque fois, eh bien, se tisse, s'accumule, se génère un espace narratif et pictural qui finit par nous combler. Cette lecture, moi, m'a enthousiasmé et j'ai retrouvé le même plaisir que j'avais eu avec Cabane. Et Les Julies donnent en plus cette puissance à l'imaginaire qui est absolument le bienvenu. Les Julies de Nilso est publié par les éditions Misma, qui est un éditeur indépendant et qui a une ligne éditoriale exigeante et qui mérite d'être suivie. Ce livre fait 312 pages, son prix 24 €. Je voudrais poursuivre avec un livre, là aussi un autre projet narratif important qui est aussi une façon de parler de l'actualité, c'est La haine du poil. La haine du poil, c'est trois autrices, Juliette Mancini, Sarah Piazza et Alexia Chandon-Piazza. La dessinatrice, c'est Juliette Mancini et les deux autrices, Sarah Piazza a une thèse en psychopathologie et en psychanalyse et donc elle est psychologue clinicienne et Alexia Chandon-Piazza est artiste, autrice et psychologue clinicienne également. Alors, La haine du poil est un titre tout à fait d'actualité qui a le mérite d'être direct et le résumé qui est donné, c'est « T'imagines le temps qu'on passe à penser à nos poils ?» Alors, la question, c'est pourquoi les poils féminins, foutent-ils la honte? Pourquoi doivent-ils être contraints, cadrés, éradiqués dès leur apparition à la puberté? Comment construire le rapport à son propre corps quand on intériorise la haine du poil? Est-il possible qu'un jour les poils nous manquent? Une adolescente, une psychanalyste, une esthéticienne, des militantes se croisent et confrontent leurs expériences pour explorer l'histoire si intime et pourtant profondément politique du poil féminin. Le principe de cette construction, avec différents personnages qui peuvent être simplement pris avec des séquences spécifiques qui vont avoir quelques pages, évite d'avoir cette trame narrative du début à la fin. C'est simplement la thématique qui va être abordée par ces touches de narrative et qui vont donc constituer un ensemble. L'idée est bien sûr d'avoir plusieurs angles de vue, plusieurs approches sur ce rapport avec les poils. Et donc, il y a bien sûr le point de vue des femmes, le point de vue donc d'une adolescente. Il y a donc l'esthéticienne, dont c'est la profession, qui va, elle, réagir. Et à plusieurs reprises, donc, on a des discussions entre un praticien psychologue ou psychanalyste et une patiente qui va donc parler de cette relation au poil et de comment cette injonction culturelle sur cette relation au poil peut être difficile à vivre et peut perturber sa propre construction personnelle. C'est d'autant plus important que la société véhicule des images assez fréquentes de femmes au poil de sexe rasées et il y a une sorte de fantasme qui se crée ainsi avec des réactions d'hommes qui sont évoquées mais qui ne laissent aucune espèce d'espace de liberté et c'est le premier combat à mener. Il y a des auteurs qui avaient déjà traité ça, comme Catherine Morris dans « Humain, trop humain », où il y a une séquence d'épilation, et notamment l'épilation du sexe, qui est déjà une très bonne entrée en matière et qui est une séquence d'anthologie. Le dessin de Juliette Mancini va apporter aussi une énergie, un positionnement, un angle de vue particulier simplement par ses partis pris graphiques. Alors Juliette Mancini est une autrice de bande dessinée qu'on avait reçue notamment, avec qui il y avait eu une émission notamment sur son dernier livre « Éveil ». Et c'est une autrice de bande dessinée, graphiste, éditrice d'une revue qui s'appelle Bien Monsieur, où les questions la question des femmes est aussi posée de façon forte et puissante. Donc Juliette Mancini va aborder, un peu à la façon de sa revue Bien Monsieur, le dessin de cette haine du poil avec des partis pris très forts. Déjà, une bichromie vert, bleu, un peu indigo, et un dessin au trait, le fond blanc, pas d'autres couleurs, la couleur qui est marquée par... Qui va traiter des matières, des vêtements, des couleurs, un dessin où la hachure peut apparaître, mais en tout cas constamment une énergie dans le trait pour qu'il y ait cette vivacité. Ce n'est pas un trait qui cherche à être séduisant, mais c'est un trait qui constamment est narratif et va... être impliqué et va réagir en somme à ce discours, ce questionnement sur le poil et cette haine du poil qui est véhiculée socialement. Il y a beaucoup d'astuces graphiques, des façons de représenter aussi bien les poils en question. Il y a des discussions entre des poils qui vont être mis en bande dessinée avec beaucoup d'ironie. Et il y a aussi donc cette façon d'être tout le temps dans l'énergie, dans le geste et de synthétiser ainsi avec ce trait les situations pour que le dialogue ressorte pleinement. Les discussions avec Les praticiens, les séquences sur le divan vont être abordées souvent avec une autre forme de découpage. Et là aussi, ça fonctionne très bien. Il y a donc un rythme aussi dans la mise en scène. En tant qu'homme, je trouvais ça très réjouissant parce qu'effectivement, on n'est pas à ce point dans cette conscience que cette haine du poil peut être extrêmement contrariante, oppressante, dérangeante. La haine du poil de Juliette Mancini, Sara Piazza et Alexia Chandon-Piazza s'est publiée par les éditions Cambourakis. Alors c'est une collection qui est dirigée par Isabelle Cambourakis, qui est libraire à Ganges, qui travaille à la librairie L'Arbre sans fin, et c'est dans la collection Sorcières. Alors, les 167 pages de ce livre sont au prix de 22 euros. Musique.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold. One day up near Celine Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me.
L'histoire du dessin politique et d'actualité, dit Frémion, ancre la liberté de la presse avec la Révolution de 1830. Le dessin d'actualité utilise le dessin comique pour critiquer la société et ses dirigeants. Le succès est immédiat, les lecteurs de presse écrite sont fidèles au rendez-vous. La censure accompagne cette émergence du dessin d'actualité. Dès lors, la lutte pour la liberté de la presse sera régulière. Ifremion construit son essai chronologiquement à partir de périodes présentées par l'évolution de la pratique du dessin de presse, l'apparition de nouveaux supports, l'émergence de dessinateurs marquant la période. L'auteur hiérarchise ses notices biographiques détaillant les dessinateurs les plus engagés dans le dessin politique, puis les autres dessinateurs à l'œuvre aussi marquants, mais présentés plus succinctement, puis ceux à ne pas oublier. Chaque notice inclut une bibliographie précise, une iconographie complète chaque période et rend compte de l'évolution du dessin même, de ce traitement graphique de l'actualité ou de la société. Du dessin fouillé de Daumier ou de Monnier, ou au style épuré du trait jeté, concentré des pétillons Willem, Volinsky ou Cabu, en passant par le trait rond des Josso, Gus Boffa ou Gassier. Un apport essentiel de cet essai est la proximité entre le dessin d'actualité et la bande dessinée, qui a souvent été dédaignée par beaucoup d'essayistes, nombre d'auteurs œuvrant dans les deux domaines. Ifremion refuse et met fin à cette hiérarchie des arts et parle ainsi vraiment, aussi bien de peinture, de bande dessinée, de sculpture, puisque les auteurs pouvaient être sur différents modes d'expression. Nous sommes avec Ifremion pour qu'il nous précise cette histoire de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et qu'il nous en fasse un état des lieux à l'heure des réseaux sociaux. Bonjour Ifremion.
Bonjour.
Alors, comment déjà avez-vous restreint l'immense corpus que constitue le dessin de presse pour vous attaquer vraiment à ce dessin politique ?
Alors, mon but, c'était quand même de faire le dessin politique, parce qu'au travers du dessin politique, on raconte évidemment toute l'histoire, non seulement d'une époque, mais là, de deux siècles, et on raconte vraiment l'histoire de notre civilisation pendant ces deux siècles. Alors que peut-être avec, parler des illustrateurs, des dessinateurs d'humour pur, ça aurait été plus difficile. Là, c'est vraiment des gens qui sont engagés dans l'actualité, dans le commentaire de l'histoire à chaud. Voilà.
Alors Ifremion, comment avez-vous constitué le corpus et des œuvres présentées, des artistes présentés, ainsi que l'organisation, le choix des périodes signifiantes de ces deux siècles?
Alors, je ramasse les dessins dans toutes les publications, je fais des fiches sur les dessinateurs, d'ailleurs pas seulement les dessinateurs, mais depuis que j'ai 14 ans. J'ai moi-même une source importante, j'ai une grande bibliothèque, j'ai beaucoup de documentation parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, et donc je me suis servi de ça d'abord. Mais évidemment, j'ai un peu bossé toutes les périodes. Il y en avait que je connaissais très 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 bien. Je connais dans l'ensemble assez bien le 18e siècle. Je connaissais bien évidemment depuis mai 68 parce que c'est la période que j'ai vécue moi. Et je connaissais bien la guerre de 14 et la période d'Assiettober. C'était des choses qui m'étaient familières. Mais je connaissais mal l'entre-deux-guerres, par exemple. Donc j'ai dû vraiment bosser. Aller regarder les revues, regarder ce qui était dit, les rares biographies qui pouvaient exister, les mémoires de dessinateurs, enfin vraiment toutes les sources possibles imaginables. Bon, évidemment, j'en ai manqué, disons que c'est un travail sur lequel ceux qui viendront après moi pourront s'appuyer pour aller plus loin. Parce que le but d'un livre comme ça, c'est comme une biographie. À un moment, il faut bien arrêter son savoir, et puis que peut-être après il y aura d'autres gens qui viendront, qui trouveront d'autres documents, qui auront d'autres revues à la maison. Alors après, pour le choix. D'abord, j'ai tenu compte à la fois de l'importance réelle qu'ils avaient à l'époque. Je veux dire qu'il y a des dessinateurs qui ne sont pas forcément mes dessinateurs préférés, mais qui sont vraiment marquants dans l'époque. Il y en a même que j'aime pas du tout, hein, période de l'occupation, il veut de soi que c'était des dessinateurs très racistes, très bon, c'est vraiment pas ma tasse de thé, et, mais bon, ils sont importants à cette époque, donc il fallait les mettre en valeur. Puis après, il y a ceux dont je trouve que le regard était plus pertinent sur leur époque que d'autres. Ils avaient saisi beaucoup plus la quintessence de ce qui se passait. Ils avaient même parfois anticipé sur ce qui allait se passer, quoi. Bon, voilà, c'est un peu comme ça. Alors après, bon, oui, si, certes, j'ai fait des hiérarchies que là, un autre historien pourrait tout à fait contester en disant non, celui-là n'est pas si important, celui-là est plus important. Là, que chacun fasse comme il veut, il peut s'appuyer sur le travail que j'ai commencé à faire.
Alors, Yves Frémion, à travers votre livre, on découvre que le dessin d'actualité est très vivant des deux côtés du spectre politique, aussi bien gauche-extrême-gauche que droite et extrême-droite.
C'est-à-dire que quand on fait de la satire, on est, comment dire, percutant. Et donc, évidemment, on a des idées des fois assez fortes. Je disais l'autre jour à quelqu'un, c'est rare les grands satiristes du centre. J'aurais même du mal à en citer. Il y en a qui comprennent pas grand-chose à la politique, mais qui savent observer. Mais autrement, les autres, c'était des gens qui avaient une vision, qui pouvaient être, on dirait aujourd'hui, d'extrême-gauche, ou libertaire, ou ou alternative, ou écolo, même maintenant, aujourd'hui. Et puis d'autres qui étaient au contraire ultra-réactionnaires, très conservateurs, et puis évidemment avec ce qui va avec, c'est-à-dire intolérants, racistes, nationalistes, repliés sur eux. Bon, mais dans les deux cas, ça pouvait donner des dessins puissants sur leurs idées, pas forcément sur les idées qu'on partage tous. Mais dans un livre historique, il fallait tous les montrer, et montrer aussi que selon les périodes, ça bascule plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Par exemple, Assiette-Aubeur était un journal majoritairement très 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 à gauche, et par contre, les journaux satiriques qui lui ont succédé après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième, étaient des journaux beaucoup plus nationalistes et extrême droite. Donc c'est intéressant parce que ça raconte des époques. Si on regarde le dessin, on comprend des événements aussi bien comme mai 68, que février 1934, que l'arrivée d'une guerre. Vous voyez, ça se sent dans le dessin. Si on regarde les dessins d'une époque, on comprend parfois ce qui va se passer.
Alors, il y a un fil qui relie tous ces dessinateurs, c'est la volonté d'avoir un dessin qui pourrait être dangereux pour leur cible. Est-ce que...
Il y a un mot que je n'ai pas entendu. Qui pourrait être quoi pour
Qui pourrait être dangereux.
C'est-à-dire... Ah, dangereux, oui. Ah bah oui. C'est... Mais le but, c'est quand même de s'attaquer à toutes les formes de pouvoir, parce que toutes les formes de pouvoir écrasent. Donc, la satire, pas seulement la satire politique et pas seulement la satire dessinée, elle s'attaque au pouvoir qui les empêche de vivre. Donc, ça va être le pouvoir politique, bien sûr, mais ça va être le pouvoir économique des multinationales, par exemple. Ça va être le pouvoir militaire dans les pays où l'armée est toute puissante. Ça peut être les pouvoirs religieux, évidemment. Ils se moquent aussi des patrons. Ils vont pas se moquer des ouvriers. Les ouvriers les menacent pas. Par contre, les patrons, parfois... ils sont au-delà de leur rôle de simple entrepreneur. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors il y a...
Alors évidemment, pardon, finis parce que vous avez posé une question. Évidemment, ça énerve beaucoup. Je pense pas que ça mette en danger. Je pense pas que si on se fiche de la gueule d'un patron, ça va lui faire perdre son job. Hein. Ça, il n'y a aucune chance. Donc c'est plutôt de le mettre à nu quelque part. Et je pense que le contre-pouvoir qu'exercent les observateurs satiristes est absolument essentiel à l'existence de la démocratie. Quand on touche à ces gens-là, on met en danger la démocratie. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde entier.
Et d'ailleurs, ces atteintes à cette presse et à cette expression donc du dessin politique est constitutive dès 1830 des premières publications.
Absolument.
Il y a tout de suite la censure qui opère.
Ben, par exemple, vous prenez l'exemple de 1830 qui est excellent, puisque bon, après une révolution qui dure 3 jours, il y a une liberté de la presse qui est quand même la première importante. Sauf que très peu de temps après, 3-4 ans après, il y a un attentat contre le roi, qui est un roi libéral pourtant à l'époque. Et cet attentat l'attentat de Fieschi, qui ne tue pas le roi, mais flanque suffisamment la trouille au pouvoir pour que pour que tout se resserre à nouveau et que la censure règne à nouveau, quoi. Et il faudra attendre très très longtemps, puisqu'il y aura une petite esquisse pendant la révolution suivante en 1848, puis après c'est l'Empire, bon, ça c'est dictature totale, et puis après, après la Commune de Paris, tout est interdit. Il faudra attendre 1881, où la loi est d'ailleurs une des plus belles lois qu'on ait fait pour la liberté d'expression, et qui relancera évidemment la caricature et les revues.
Yves Rémion, je vous propose une pause musicale avec votre deuxième choix, avec Los Gonococo.
Oui.
Et on se retrouve après.
Oui, il y a un des deux chanteurs que je vous recommande.
Très bien. À tout de suite.
Qu'il est con con, enfoiré con, qu'il est con con, oh la vache con, qu'il est con con. Oh con, oh con con, qu'il est con con, putain con con, qu'il est con con, des mecs con con, j'en ai vu des tas con, mais des vrais cons comme ça jamais con. Le con nous fait chier con. Oh con, oh con con, qu'il est con con, putain con con, qu'il est con con, ah le con, ah le con con, c'est bien con tout ça con, il nous emmerde con, ah le curé con. Qu'il est con con, putain con con, qu'il est con con, c'est pas possible con, il est à flinguer con, oh le mec con con, faut lâcher les chiens con. Oh con, oh con con, qu'il est con con, putain con con, qu'il est con con, c'est le roi des con con, mais c'est lui patron con, mais c'est lui patron con.
Voilà, c'est... Alors le deuxième chanteur, c'est qui, Frémion?
C'est Jean-Louis Le Breton. Et il y a le troisième larron qui est Jean Bonnefoy. C'est la version synthé, parce qu'il y a une version plus orchestrale. Voilà, c'était ma jeunesse.
Voilà, donc nous sommes avec Yves Frémion pour son livre donc de la carrière. Alors ça y est, c'est un beau titre, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, de la caricature à Charlie Hebdo, histoire du dessin politique et d'actualité, 1830-2015. Et je partais dans le mauvais sens, d'où mon hésitation. Alors, il y a une page qui est consacrée à Bazooka et donc à ce collectif qui s'est incrusté dans les pages de Libé. En quoi, pour vous, ce moment-là de l'édition de Libération est important?
Alors d'abord, c'était pas que dans Libération, ils ont envahi plein de trucs dans la presse. Bon, c'est j'en ai fait un encadré, parce que, évidemment, on ne peut pas les considérer comme des dessinateurs de presse comme les autres, mais ça a été des commentateurs de l'actualité, de, très radicaux, on va dire, et en même temps, qui voulaient bousculer non seulement les maquettes des journaux, où, rappelez-vous que dans Libération, des fois, ils rayaient certains articles d'un trait rageur, bon, c'était... C'est vraiment un moment magique, parce que tout, comment dire, il n'y avait plus de doxa, il n'y avait plus de plus de règles, il fallait vraiment tout contester. Et aussi, bien entendu, dans le contenu, parce que leur ce qu'ils disaient était très puissant, ils montraient des choses que personne ne montrait, pas même parfois la photo. Donc je ne pouvais pas évidemment ne pas parler de... l'intervention des bazookas dans la presse d'actualité. En plus, ce sont des amis, donc voilà.
Alors, donc on a eu les commémorations par rapport aux, donc aux attentats de janvier 2015. Vous évoquez donc dans les deux derniers chapitres cette période de 1990 à 2015. Il y a un bouleversement finalement de l'édition et du dessin de presse, du dessin d'actualité et du dessin politique aujourd'hui, donc depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette évolution et cette difficulté aujourd'hui pour les auteurs et les dessinateurs à vivre de ça?
Alors, lorsqu'on était embauché régulièrement par un support, un magazine, un quotidien, selon la loi de 1976 ou 17, je ne sais plus, la convention collective qui est devenue une loi, on est considéré comme salarié. Donc ça donnait un certain confort, je mets des guillemets à ce mot, dans l'exercice de cette profession, quoi. C'est-à-dire que si on était viré, on avait des indemnités, on avait des choses comme ça. Alors, la plupart des dessinateurs qui travaillaient régulièrement gagnaient leur vie. Il y en avait qui gagnaient très bien, il y en avait qui les gagnaient mal, mais enfin, dans l'ensemble, c'était une vraie profession. À partir du moment où il y a eu l'attentat, s'est installée dans les rédactions une grande trouille, il faut le dire, évidemment que d'autres attentats se perpètrent à leur détriment, pas seulement, enfin...
Ah, est-ce que vous êtes toujours là, Yves Frémion? Non, donc on va le rappeler. Alors moi, je vais en profiter pour rappeler les caractéristiques du livre. Ce beau livre, parce que c'est un beau livre, est publié par les éditions Glénat. Il y a vraiment un travail important, une maquette très claire, qui fait qu'on a une prise d'information facile. Et c'est assez essentiel dans ce genre de propos. Donc à la fois, l'iconographie est vraiment importante et permet d'avoir un visuel pratiquement pour l'ensemble des dessinateurs cités. Et puis donc cette façon de découper avec le principe de la présentation de la période, les revues, les périodiques à mettre en avant, soit parce qu'ils émergent, soit parce qu'ils prennent un nouveau tournant et vont être plus radicaux, par exemple. Il y a la création du Canard enchaîné, donc on va voir apparaître à différentes périodes. Et il y a après la présentation des auteurs essentiels, généralement deux ou trois par période, plus d'autres auteurs à citer qui vont avoir une notice de moindre importance, et puis ceux qu'il ne faut pas oublier. Donc à chaque fois, ça donne un ensemble qui est tout à fait précis. Et puis bien sûr, ce qui est une astuce, mais d'une grande efficacité, après chaque présentation, chaque notice biographique, il y a la bibliographie, et ça c'est toujours important de pouvoir directement savoir quel livre on peut ou on a envie de voir associé et de pouvoir consulter ou acquérir par rapport à un auteur présenté. Le prix est de 49€ pour 400 pages et c'est donc un livre d'ampleur avec cette absence de hiérarchie des arts qui est absolument essentielle parce que c'est plutôt une première. Et le nombre de fois où j'ai pu lire, par exemple, un livre sur l'art de la caricature, et puis on parle jamais de bande dessinée parce que il y a ce côté hautain. Non, la bande dessinée, ça peut pas être considéré ainsi. Alors je vois que tout le monde s'affaire derrière la vitre. C'est manifestement une difficulté. On n'arrive pas. On peut envoyer un SMS. Voilà, donc pendant que je fais ça, je voudrais rappeler aussi les autres activités d'Ifremion, qui est donc qui est le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Papier Nickelé, qui fait une exploration très assidue de tous les vieux papiers, entre autres, et qui va avoir un travail de fond sur l'ensemble de l'édition. Il y a plus de 80 numéros parus, et c'est vraiment une revue à découvrir pour tous ceux qui sont intéressés par cette vie de l'édition, de périodique, et avec souvent beaucoup de contenus qui ne sont pas repris en album. On s'en aperçoit aussi dans ce livre de la caricature à Charlie Hebdo, où beaucoup d'auteurs mentionnés ont parfois peu de livres. Donc, manifestement, je rame encore un peu, et puis, je crois que c'est cuit. Alors, si jamais Ifremion, tu nous entends, tu n'hésites pas à nous faire signe pour nous dire « Coucou, je suis là ». Bon, en tout cas, je vous ai rappelé les caractéristiques de ce livre. C'est dommage d'avoir pu couper que cette interview soit arrêtée parce que cette question... Donc, du statut des auteurs a manifestement changé avec, le propos des deux derniers chapitres, avec déjà un prix au dessin qui est très différent, avec une paupérisation des titres. Le dessin, par exemple, de Plantu, qu'on trouvait en Une du Monde, lorsqu'il a pris sa retraite, n'a pas été remplacé à l'équivalent. Et donc, à chaque fois, sur des supports importants qui portaient ainsi le dessin d'actualité, il y a des espaces qui disparaissent. Et c'est assez contrariant parce que cette lecture de l'actualité est d'un point de vue simplement, comme le disait Ifremion, démocratique, est essentielle parce qu'on est toujours avec cette mise en perspective et qui est une formation du citoyen essentielle parce que nous, après, on prend cette habitude de mettre en perspective les informations et l'actualité. Il y a des personnalités saillantes qui ressortent de ce livre, comme par exemple celle de Mix et Remix, de René Pétillon, de personnes qu'on connaît moins, comme Cabrol, comme Gus Boffa ou Paul Irib, ou d'autres qui, plus connus, sont présentés aussi comme Reiser, Cabu, Volinsky, Willem, Plantu. Et donc, ça fait vraiment un très bel ensemble. Donc, histoire du dessin politique et d'actualité de la caricature à Charlie Hebdo, donc 1830-2015, par Ifremion, aux éditions Glénat. Les 400 pages pour 49€. On finit avec le troisième choix musical d'Ifremion, qui est interprété, et vous allez reconnaître les premières notes de musique tout de suite, mais c'est avec Bourvil et Jacqueline Maillan.
Oh, oh. Dis-moi, cette télé, c'est vraiment n'importe quoi.
Ah oh bah tu vois, j'ai bien aimé, moi.
Oh bah toi, bien sûr, dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh, il fait chaud.
Ah oui, il fait chaud, oui.
Tiens, j'en fais autant.
Ouais, tu te mets nue?
Oui. Hein?
Ah ben moi aussi,
bien fait.
On sent pas des salopes. L'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil.
Oui, et après, ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes. Oui.
Oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi,
ils
ça.
Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Ils l'ont dit.
Dis-moi.
Quoi?
On essaye.
Mais quoi?
D'avoir des rhumatismes.
Oui. Tu es bête. Mais je t'aime bien.
Moi non plus.
Serge.
Oui.
Éteins.
Ah bon, tu...
Éteins.
Tu veux que j'éteigne
ouais,
déjà?
Oui.
Bon. Voilà. Plus j'y repense et plus je trouve qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé.
Encore?
J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... Oh bah, t'as tort de rigoler. Elle te ressemblait.
Oh bah merci.
On a retrouvé Yves Frémion, on est obligé d'interrompre ce très beau morceau de Bourvil et Jacqueline Maillan. C'est grandiose.
Ah oui, c'est le disque qui me fait le plus rire.
Oui, c'est vrai, j'en ris encore. Et pourtant, je l'ai écouté plusieurs fois aujourd'hui. Alors, vous étiez en train de parler, Yves Frémion, de ce changement et notamment des rémunérations qui baissent. Alors, j'ai meublé un peu avec la diminution des espaces et des rémunérations qui se réduisent. Est-ce que c'est pas une façon aussi pour les patrons de presse de combattre le dessin politique?
Ben, disons que comme ils ont peur des ennuis que ça provoque, bon, moins ils en mettent, plus ils sont contents. En même temps, c'est souvent ce que les gens lisent d'abord. Surtout quand il y a un dessinateur éditorialiste, c'est-à-dire qu'il y en a une, on va regarder son dessin, même si on n'aime pas le dessinateur, même si on n'est pas d'accord, c'est d'abord ce qu'on lit. Et c'est ce qui permet d'accrocher des fois sur certains sujets qui sont à l'intérieur du journal. Donc, ils ont tort de faire ça, évidemment, et en même temps, on est dans cette période de... comment dire... De manque de courage généralisé devant toutes les atteintes à la démocratie. Des caricatures de Mahomet, ce qu'on avait appelé les caricatures de Mahomet, qui d'ailleurs n'étaient pas des caricatures. Mais enfin bon, si à l'époque, toute la presse quotidienne avait publié ses dessins le même jour, il ne se passait plus rien. Il se passait plus rien, parce qu'on peut combattre un journal, on ne combat pas tout un pays, on ne combat pas le monde entier. Et c'est ça qu'il fallait faire. Et ce manque de courage, ils l'ont payé après cher, parce que du coup, ça a encouragé à aller plus loin. Après le premier attentat qu'avait subi Charlie Hebdo, qui était juste un attentat sur leurs locaux, après, ils s'en sont pris aux personnes. Et ça, c'est une leçon à retenir. Il faut... jamais reculer d'un pas devant tout ce qui est des atteintes démocratiques. Il ne faut jamais reculer, jamais. Et heureusement, il y a des dessinateurs de presse qui sont là pour ça, pour nous montrer le chemin.
Alors, il est souvent évoqué le blasphème. Et donc, là aussi, il faut vraiment... marquer la distinction, c'est pas parce que une sorte de liberté. Est-ce qu'il y a une liberté de blasphème?
Le blasphème, ça n'existe pas. C'est une invention des religieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe que pour ceux qui croient très 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 fort. croient à ce qu'ils veulent. Mais pour celui qui ne croit pas, c'est quelque chose, ça n'existe pas. C'est le blasphème, la notion de blasphème sert d'excuse aux gens les plus violents pour se livrer à leurs crimes les plus violents. Malheureusement, toutes les religions du monde servent de prétexte à tous les crimes et à toutes les guerres. Citez-moi un conflit dans le monde aujourd'hui qui n'est pas un prétexte religieux. Je dis bien un prétexte, parce que souvent, les gens qui pratiquent ces religions ou qui croient, c'est pas du tout leur propos. Ils sont pas forcément des gens violents, des tueurs et tout ça. Mais ceux qui sont violents et tueurs se servent de ce prétexte-là. La plupart des attentats islamistes ont été commis par des gens qui n'avaient jamais ouvert le Coran. Il faut quand même le dire. Parce que s'ils avaient ouvert le Coran, ils n'auraient pas fait l'attentat. Et donc, au bout d'un moment, cette excuse ne peut pas servir. Et moi, je suis très content de vivre dans un pays où le blasphème n'existe pas dans la loi. Et je crois qu'on nous envie beaucoup dans beaucoup de pays. Je peux vous dire qu'en Iran ou en Afghanistan, ils seraient ravis d'avoir la loi de 1905.
Yves Frémion, quels sont les éléments qui vous donnent espoir dans la période aujourd'hui, notamment pour le dessin politique et d'actualité ?
Ah ben, à court terme, on ne peut pas dire qu'il y a un grand espoir. Parce que la tendance elle se généralise de plus en plus, etc. Mais en même temps, comment dire, grâce au dessin de presse, il y avait une espèce de soupape de sécurité. Et cette soupape, si elle n'est plus là, c'est la marmite qui va exploser, quoi. Il vaut mieux se sentir vengé par un dessin de toutes les oppressions qu'on reçoit tous les jours, que de ne jamais se sentir défendu et de vouloir passer à l'acte à son tour. Parce que la violence entraîne la violence. On le voit d'ailleurs, les actes aujourd'hui contre l'islam ou contre les juifs, ou ça augmente. Donc au bout d'un moment, faut que dans toutes les religions, les pratiquants comprennent qu'il faut qu'ils se débarrassent de leurs intégristes. Parce que s'ils font pas ça, ça va être terrible. Mais terrible pour eux. Donc au bout d'un moment, il vaut mieux qu'on rigole beaucoup avec les satiriques, avec les satiristes, plutôt que de se taper sur la gueule dans la rue, quoi. Voilà. Enfin, moi, je pense que... en tant que spécialiste de l'humour, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. C'est de développer des moyens d'expurger la. On a tous de la violence en soi. Il vaut mieux l'exprimer verbalement ou par des dessins ou par des peintures ou par de la musique ou par des films que de le faire avec une Kalachnikov en main. Voilà, c'est clair.
Vous avez bien fait de rappeler, Yves Frémion. Merci beaucoup pour ces propos essentiels. Je rappelle donc votre livre, cette histoire du dessin politique et d'actualité 1830-2015 de la caricature à Charlie Hebdo. Cette fois, je ne me suis pas trompé. C'est publié par les éditions Glénat. Les 400 pages de votre livre sont au prix de 49 €. Et c'est un beau livre. Ouais.
Oui, vous pouvez le laisser dans vos WC pour le lire sur plusieurs années. Voilà, parce que ouais, on peut pas lire les 400 pages d'un coup, c'est pour ça. C'est voilà, net. Je dis souvent, c'est un livre de chiottes. Mais bon.
Merci Frémion, à très bientôt.
Ok, au revoir. Okay, au revoir.
Écriture dessinée.